Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, je suis très contente de démarrer la saison 2 de Décodeur, un peu en décalé certes, mais j'ai volontairement laissé passer la rentrée, la reprise des activités, celle des enfants et l'actualité déco aussi, qui est toujours très riche, tout début septembre. D'ailleurs, pour connaître cette actualité déco, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Hortense Déco, où je partage avec vous mon quotidien de journaliste déco. Et pour l'actualité du podcast, par contre, c'est bien la page Décodeur Podcast qu'il faut suivre. Je voulais profiter aussi de faire cette petite intro pour vous remercier encore pour l'accueil que vous avez réservé à Décodeur depuis le début et notamment ces derniers mois. Merci pour tous vos messages, vos retours, vos encouragements. Ça me fait toujours très plaisir. C'est très motivant, ça donne envie de faire encore mieux, de progresser, d'avancer, d'aller plus loin. J'espère vraiment que cette deuxième saison vous plaira tout autant. Et si c'est la première fois que vous écoutez, ben bienvenue. D'ailleurs, juste une petite nouveauté, je vous donne pas rendez-vous vendredi prochain, mais le mardi suivant. Je vais alterner les vendredis et les mardis, espacer de 10 jours les épisodes. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps entre les deux pour préparer et pour être sur d'autres projets aussi. Et j'ai l'impression que même si certains écoutent vraiment tous les vendredis, et je les remercie infiniment pour cette fidélité sans faille, vous êtes quand même nombreux à ne pas forcément pouvoir le faire. Donc ralentir un tout petit peu pour l'instant, ça ne va pas changer grand chose et c'est aussi bien pour tout le monde. Voilà, allez, j'arrête de parler, enfin non, je continue, mais avec mon invité. Pour cette rentrée, je reçois Constance Génari, la fondatrice de The Socialite Family. Enfin, c'est plutôt elle qui me reçoit dans sa jolie boutique de la rue Saint-Fiacre à Paris. Car oui, après un blog créé en 2013 qui présente chaque semaine des portraits de familles branchées dans des intérieurs tout aussi pointus, une première collection de meubles en 2017, Constance a ouvert sa première boutique. En 6 ans, cette prescriptrice de tendance a su imposer son média, sa marque et son univers pour être aujourd'hui une actrice incontournable du monde de la déco qui rassemble une véritable communauté de passionnés. Un phénomène qui méritait bien une interview sur l'envers de ce beau décor. Bonjour Constance.
Salut Hortense.
Alors on connaît tous The Socialite Family évidemment, mais toi on ne te connaît pas forcément. Donc question de base, est-ce que tu peux te présenter, nous dire juste ce que tu faisais avant de créer ce fameux blog en 2013 ? Quel a été ton parcours ?
Ah, c'est long. En fait, ce site, d'ailleurs, je dis même plus blog, mais c'était un format blog quand je l'ai monté, parce que c'était un peu la mode. Enfin voilà, c'était le moyen de pouvoir montrer quelque chose, ce qu'on aime, etc. Donc c'était vraiment un format blog. Et je l'ai créé après avoir fait tout un tas de boulots différents. Que, voilà, je me sentais vraiment prête à créer quelque chose de très personnel. Et du coup, moi, j'ai fait de l'histoire de l'art, du droit. Je voulais être commissaire-priseur. Finalement, j'ai travaillé dans un magazine de mode enfantine à l'époque où j'étais journaliste, puis rédac-chef. Et puis après, à l'achat d'art aussi de cette boîte. Et après, je suis partie dans la pub où j'étais acheteuse d'art. Et dans le jargon de la pub, être acheteuse d'art, c'est la personne qui propose une signature photographique, voilà, qui propose un talent une fois qu'une maquette est validée. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et puis, il y a aussi une éducation, il ne faut pas l'oublier, qui finalement se crée au fur et à mesure de sa personnalité, se forge plutôt au fur et à mesure de sa personnalité. Et tout ça fait qu'à un moment, on se sent vraiment capable et prêt à monter son bébé, à monter sa boîte, son idée. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça.
Et quel a été le point de départ du blog ?
C'est vraiment une observation autour de moi, de mes amis proches. J'étais fascinée par, et je suis toujours d'ailleurs, par leur intérieur racé, personnel, qui ne ressemble à celui de personne d'autre, tout en ayant des pièces un peu différentes. Pas forcément des pièces chères ou signées. C'est un peu comme quand, à un moment donné dans sa vie, on comprend ce qui nous va, ce qui nous sied, les couleurs, les formes, etc., sur son physique. Et en fait, de voir un peu toutes mes amis avec des intérieurs et des pièces chinées ou bien de famille, ça m'a vraiment donné envie de parler d'elles. Ce sont des femmes qui ont eu des enfants après 30 ans, voire 35 ans, qui continuent de travailler, qui n'ont pas forcément une batterie de nounou, pas du tout, et qui cuisinent, etc. Bon, c'est des filles évidemment très dynamiques, urbaines, connectées, je vais dire, et qui croquent la vie à pleines dents. C'est des filles qui ont une certaine personnalité et audace et qui finalement la mettent en scène aussi chez elles, en fait.
Pourquoi ce nom ? C'est quoi une socialite family ?
Socialite, en fait, c'est un nom qui commençait à être un peu à la mode, justement, pour parler un peu de ces filles. Les socialites aux États-Unis sont les filles assez mondaines,
les
qui sortent
girls.
Beaucoup, les hit girls, etc. Et bah, moi, family, c'était justement pour casser ce côté socialite de la hit girl, mais family, la famille, en fait, qui voyage, ce nouveau format de famille où on élève ses enfants d'une autre façon que nous, l'éducation qu'on a eue. Voilà, des gens très dynamiques qui font beaucoup de choses avec leurs enfants, qui voyagent beaucoup. Et puis de montrer aussi ces enfants qui sont très vite aussi sur très connectés. Enfin voilà, qui ont vraiment une autre façon de grandir que celle qu'on a eue. Donc pour moi, c'était un peu ça, la socialite family. Une famille qui vit avec son temps, qui voyage, qui sort, qui est très ouverte en fait. Très ouverte, plutôt urbaine on va dire, mais pas que d'ailleurs.
Comment t'as trouvé tes premières familles ? Tu disais c'était des copines plutôt ?
J'ai commencé par demander à mes amis qui m'ont dit oui, qui m'ont fait confiance. Et au fur et à mesure, j'ai demandé aux amis de mes amis. Et puis après, les gens m'ont proposé aussi leur appartement. Mais néanmoins, ça reste toujours un sourcing, enfin une recherche personnelle qu'on continue à faire. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de demandes par jour d'appartements, etc., de familles.
Ah oui, on te contacte pour passer.
Ouais, on a même une boîte mail à appartement@thesocialitefamily.com où les gens un peu postulent, entre guillemets. Donc c'est très mignon, c'est assez dingue, parce qu'on a vraiment des gens qui nous écrivent, qui sont des gens qui sont passionnés par la déco, qui ne font pas forcément partie du milieu, il y a vraiment de tout, et des gens c'est assez dingue d'avoir ces propositions d'appartement. Je remercie encore chaque jour les gens qui nous écrivent pour nous proposer très gentiment leur appartement, voilà.
Mais justement, quand tu vas découvrir un intérieur, pour savoir si tu vas le retenir ou pas, qu'est-ce que tu regardes tout de suite ? Qu'est-ce que tu recherches ?
Je recherche tout de suite déjà la lumière, quelle lumière il y a, la personnalité des lieux. En fait, chez tous les gens, il y a quelque chose de très intéressant. Après, je ne peux pas forcément toujours faire un shooting entier, récupérer assez d'images en fait pour faire un sujet conséquent. Mais déjà, d'ores et déjà, chez chacun, il y a quelque chose de beau et de personnel, je pense. Enfin, dès qu'on met quand même un peu sa patte. Les kitscheries sont toujours aussi hyper intéressantes. Moi, j'aime bien que ce soit pas toujours lisse, pas trop figé. Donc je cherche toujours un peu les accidents heureux, j'aime bien dire ça, des accidents heureux qui font que l'appartement tout à coup va ressortir, on va sentir vraiment une âme, quoi, quelque chose de très fort. Et c'est ça tout de suite qui m'intéresse. Je le vois, je demande toujours un petit repérage aux gens en photo, à la lumière naturelle, enfin de jour en tout cas, ou sinon j'y vais moi, je fais un petit tour, on va boire un petit café. Ça dépend. Ouais.
Alors, quel est l'envers du décor sur un shooting ? Ça prend combien de temps ? Plutôt 2 heures ou plutôt 2 jours ?
Alors, surtout pas 2 jours, parce que, au contraire, c'est un moment d'intimité que je passe avec la personne, avec les gens qui adorablement m'ouvrent leurs portes, donc avec générosité. Et c'est un moment en toute intimité. Donc, il faut que les gens se sentent bien. Et donc, j'arrive pas avec une équipe de photographes. C'est très simple. Soit c'est moi, soit on a une équipe de photographes qui travaille avec nous, mais c'est une personne qui vient. Et c'est plutôt une demi-journée ou une matinée, en fonction du temps de la personne. Mais c'est pas 2 heures non plus. parce qu'il faut prendre le temps, c'est une concentration. On est assez généreux, nous, dans les images qu'on présente. Donc, moi, j'aime bien montrer beaucoup de détails, détails d'une lecture, d'un porte-clé, de tout un tas de choses qui m'intéressent. Et donc, donner vraiment à voir à nos lecteurs plein de détails. C'est ça qui ce sont tous ces détails qui montrent vraiment la personnalité chez qui nous sommes. Quoi.
Et tu les briefes avant ? Tu leur fais des recommandations ?
Aux gens, ouais. Je veux dire, je leur demande de pas trop ranger leur appartement, surtout pas.
Mais j'allais
trop
te
ranger.
Demander, est-ce qu'ils doivent ranger ?
Bah, les gens sont toujours très bien élevés, donc même si je leur demande de pas trop ranger, ils se mettent quand même toujours une petite pression pour ranger. Ce que je comprends, parce que je suis la première aussi quand je reçois et je vais ranger. Mais j'aime bien leur faire sortir un peu leur bazar, ouvrir les placards, qu'ils me ressortent un peu leurs clés, ou même sur une table basse, s'il y a rien, c'est pas possible. Tu vois, j'ai vraiment besoin qu'ils me ressortent des bouquins, des magazines, ce qu'ils aiment, ce qu'ils sortent, les jouets des enfants. Enfin, j'aime bien avoir voilà, même des miettes ou la fumée de cigarette du mec s'il passe et qu'il vient de fumer. J'ai envie de l'avoir, quoi. Je trouve ça beau.
Et sur les tenues, tu leur fais des recos ?
Non, jamais, jamais, jamais. Surtout pas. Les gens sont comme ils sont. Il faut pas qu'ils s'habillent parce que, enfin voilà, surtout pas.
Parce que donc dans les magazines, il y a beaucoup de stylisme. Les intérieurs sont optimisés, parfois même réinventés juste pour une photo. On y apporte même parfois des meubles, des objets. Toi, c'est pas du tout le cas, ou tu le fais de temps en temps ?
Jamais, jamais.
Ah, ils sont vraiment les intérieurs des personnes.
Complètement authentique. Je suis très intègre sur ça. J'y tiens et j'ai jamais fait de placement shopping, placement produit, pardon. Je l'ai fait une fois, mais c'est un ami qui me l'a demandé. Je photographiais chez lui. Il y avait vraiment rien. Il y avait rien de rien de rien. Donc j'ai placé quelques produits pour rajouter, mais c'est rarissime. Ça m'ennuyait un peu parce que c'était pas vraiment lui. C'est pas ce que j'aime faire. Je le sens pas. En fait, je sens pas la photo. Je vais pas commencer à placer des coussins, des tapis, des trucs, parce que j'estime que chez eux, c'est chez eux et que c'est pas à moi d'aller mettre des pièces. Mais et voilà, ou alors je pourrais faire comme les magazines éventuellement qui demandent aux gens qu'est-ce qu'ils veulent rajouter chez eux. Je pourrais le faire, mais nous, c'est pas l'idée que je conçois sur une prise de vue, quoi. Surtout pas.
Quel intérieur t'as le plus marqué ?
Ah, il y en a tellement, tellement, tellement. Je les aime déjà tous, beaucoup. Alors évidemment, celui qui m'a marqué vraiment beaucoup, c'est celui de l'architecte italien Roberto Bacciocchi, qui est un monsieur, c'est vraiment un cardinal. C'est assez étonnant d'avoir un monsieur comme ça sur le site, parce qu'il est beaucoup plus âgé que la norme en général, la moyenne des gens qui sont sur le site. Et c'est l'architecte de la famille Prada, donc c'est lui qui a fait toutes les premières boutiques Prada et qui revient pas mal sur le devant de la scène. Il est représenté à Milan chez la galerie Niloufar, c'est aussi un designer, et j'étais très très impressionnée. Il m'a reçu dans sa maison à Arezzo en Toscane, c'était fabuleux, c'était complètement dingue. Souvent ce sont les appartements italiens. Moi je suis moitié italienne, quand j'y vais je meurs, je deviens dingue, ça m'en folle. C'est souvent très très beau. Très très beau. Après, à Paris aussi, évidemment, mais comme tu l'as plus le reste du temps, je connais déjà pas mal les intérieurs, je suis toujours subjuguée. Mais en Italie, c'est dès l'entrée de l'immeuble, c'est complètement fou. L'ascenseur, on n'en parle même pas. Avant même d'arriver, je suis en transe. Voilà.
Et c'est marrant que tu parles de ça, sur le fait d'être peut-être un tout petit peu moins subjuguée à Paris, parce que tes familles, elles sont très différentes, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances quand même un peu dans ce monde de la déco à Paris, où tout le monde se regarde un peu, peut se croire d'une certaine manière un peu originale, mais copie un peu le voisin et finit par se ressembler finalement, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, y a toujours des modes, des tendances, de lignes, de matériaux qu'on retrouve forcément. Après, nous, justement, le travail sur toute la partie média du site, c'est d'essayer de passer du coq à l'âne dans les univers. C'est ça ce que j'aime. Passer d'un univers très 18e ou style empire, enfin un mélange assez éclectique, à quelque chose de très minimaliste, épuré, très blanc, monochrome, m'intéresse vachement. Justement, et ça c'est toute la difficulté du site et de la recherche, parce que c'est trop facile de photographier toujours les mêmes intérieurs, en tout cas des intérieurs avec du mobilier qui se ressemblent régulièrement. Donc je pense que nous on n'est pas comme ça, nous justement qu'on essaie vraiment de rechercher à la fois dans la personnalité des hôtes et en même temps de l'appartement. Donc je pense, et c'est en voyageant aussi pas mal en France qu'on arrive à trouver ça, parce que entre le nord de la France et le sud, la lumière est différente, les sols, l'architecture est différente, etc. Donc on arrive quand même à trouver des différences. Mais forcément, on ne peut rien y faire. Il y a des mobiliers qui sont iconiques. Tout le mobilier fait par les IMS, tout le métal en ce moment avec les Bertoya, et donc édité par Knoll. Enfin voilà, y a, évidemment, tu ne peux pas y couper. Il y a eu toutes ces tendances nordiques d'une époque. Là, on revient à de l'italien, ou les années 70 aussi pas mal. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même des tendances qui ressortent, et forcément les matières et le mobilier suit derrière.
Mais est-ce que c'est pas une question de moyens d'avoir une déco réussie?
Non, en fait, je pense pas. Il faut être très patient. C'est comme tout. Il faut prendre son temps. Quand on arrive dans un appartement, qu'on emménage, qu'il fasse 20 mètres carrés ou comme 200 mètres carrés, il faut prendre son temps pour trouver la pièce. Et alors ça, évidemment, il faut se bouger un petit peu, il faut être curieux, il faut la chercher, sa pièce. Elle se mérite. Donc soit on est paresseux et on achète tout dans la même boutique, et c'est dommage. Soit on prend son temps d'aller la chercher, de la chiner physiquement ou sur le net. Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour trouver la pièce de ses rêves, que je pense qu'on peut tout à fait, même sans beaucoup de moyens, être malin et arriver à trouver et à se créer un univers à la fois très personnel et pas très cher.
Est-ce qu'on peut juger quelqu'un à son intérieur? Est-ce que la déco reflète vraiment la personnalité de quelqu'un? Quelqu'un qui a un salon, par exemple, très coloré, est-ce qu'il est forcément très audacieux, même dans son caractère?
C'est pas tant forcément sur une couleur, c'est un tout, en fait, je dirais. Je trouve que oui, ça correspond totalement à la personnalité, justement, en intérieur. On comprend tout de suite si la personne est un peu contrôle freak, on comprend si elle est maniaque, on comprend si elle a fait appel d'ailleurs à un décorateur, parce qu'on se dit, mais c'est, ça n'a rien à voir avec cette personne-là, je comprends pas, il y a un truc qui s'est passé. Et en effet, si on demande, peut-être que la personne est passée par un décorateur pour l'aider. Ouais, je trouve que ça reflète quand même pas mal, même plus que presque une tenue vestimentaire. En fait.
Toi, tu es quand même très pointu, ce qui est très inspirant et ce qui a fait sûrement ton succès. Est-ce que tu as envie de conserver ce profil, voire l'être de plus en plus, ou au contraire, est-ce que tu n'as pas intérêt à l'être un tout petit peu moins pour être davantage suivi?
Je ne sais pas ce que être pointu, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, on n'est jamais arrivé à un but, en fait. C'est que moi, je suis passionnée, donc je passe mon temps à regarder dans des bouquins. Quand j'aime un auteur, un designer, un architecte, je vais lire tous ces bouquins, regarder ce qu'il fait, aller voir des expos, je me plonge vraiment dedans. Après, j'en ai jamais fini, en fait. Pour moi, je suis pas du tout pointue. Enfin, c'est juste une passion que j'essaie de transmettre. Et encore, j'ai tellement envie encore d'apprendre tout un tas de choses sur l'histoire de chaque designer d'époque, etc. Enfin, j'en suis loin. Pour moi, j'en suis encore loin. En fait, l'idée, surtout, la première, c'est de faire rêver et de créer de l'émotion. Et je pense que, ouais, dans tous les appartements, on peut aussi récupérer des idées et de se dire, tiens, enfin voilà, ça inspire, ça, on crée du rêve aussi avec ces intérieurs. Waouh! Et encore, je trouve que je pourrais encore en trouver des plus...
Wow. Des plus dingues.
Des plus dingues, j'aimerais bien encore. Ouais.
Alors, depuis 2017, tu imagines des pièces de mobilier, des luminaires, des accessoires déco. Je crois que tu en as une cinquantaine. Ce sont donc tes propres produits, enfin, les propres produits The Socialite Family. Pourquoi se lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Eh ben, en fait, c'était vraiment un projet qui est né au fur et à mesure de mes rencontres aussi avec les gens, de tous ces intérieurs, entre l'éducation dès le départ de mon enfance, toutes ces rencontres, et puis aussi être très proche de marchands, etc. Je me suis dit, mais encore tellement de choses à faire dans la déco, tellement de choses à apporter et sortir du lot, parce que je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui se ressemblaient dans toutes les propositions. Tous les acteurs de la déco font toujours un peu parfois la même chose. C'était un peu frustrant. Moi, chez moi, j'ai beaucoup, beaucoup de pièces anciennes. J'ai très peu de choses neuves parce que je trouve rien qui me plaît vraiment dans le neuf. Et en fait, avec mon associée Marianne Gosset, avec qui je suis associée depuis 4 ans, là, depuis le début de l'histoire de Socialite, on a eu envie vraiment de créer notre marque en propre de design. On a travaillé, en fait, on a eu l'expérience aussi avec La Redoute qui est venue nous voir pour nous proposer de travailler ensemble, mais ils ne savaient pas vraiment comment. Et moi, je leur ai dit, mais si, je sais, j'ai envie de créer un univers autour de la chambre à coucher, du mobilier donc. Et voilà, donc ils nous ont dit go, ça s'est fait, ça a très bien marché. Et c'est vrai que ça a été un peu le déclencheur pour que derrière, nous, on ait envie de se dire, mais attends, on y va. Et moi, j'avais déjà en tête tout un tas d'univers que j'avais envie de créer et qui étaient vraiment en attente, enfin voilà, en sommeil dans ma tête. Et en fait, j'ai commencé à sortir tout un tas de choses. On a commencé à créer un banc très inspiré d'esprit moderniste, broyeur, etc. Puis après, des coussins, j'avais envie de coussins ronds, il n'y en avait pas sur le marché. L'idée, c'était de sortir son épingle du jeu et de faire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, évidemment. Enfin, des choses que... Moi, je n'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de créer de l'émotion. Voilà, l'idée, c'est de s'amuser et de montrer des choses différentes.
Comment tu définirais le style de Socialite Family? Quelle est ta palette de couleurs, les matières, puis le style même dans l'absolu?
Alors, c'est un style très éclectique quand même, parce qu'on va, on passe d'un banc en canage, piétement tubulaire, à un canapé nona, à franges, un peu boudoir. En passant par un fauteuil cavalo aussi en canage, en bois courbé. Donc, c'est un style, je dirais, bon, évidemment très inspiré vintage, ça c'est sûr. Je dirais aussi très italien. Les couleurs sont assez des couleurs feutrées, beaucoup de velours dans les tissus. C'est assez chaleureux comme style. Il y a un côté un peu... je ne vais pas dire grand-mère, un peu baroque aussi, je trouve, quand même, dans l'esprit, mais mélangé à des lignes modernes. Parce que l'idée, ce n'est pas de refaire un ensemble trop vieillot non plus. Je ne veux surtout pas tomber là-dedans, mais moderniser un peu des pièces vintage dans les lignes, etc. Je travaille vraiment à l'instinct. Surtout mon plan de collection, c'est des choses dont j'ai envie sur le moment. Pareil, sur les luminaires, c'est un esprit italien, années 60. Il y a beaucoup de laiton, de verre, de l'opaline. J'aime beaucoup le marbre, pareil, des années 60, un peu ce marron avec beaucoup de veines. Je sais pas, c'est vraiment des envies du moment. Bon, après, ça prend du temps pour les créer aussi. Il faut aller trouver les bons fabricants, donc c'est toute la difficulté.
Oui, j'allais te demander, la production, la fabrication, ça se passe... Comment et où ?
Eh ben, une fois qu'on a terminé le dessin et qu'on est content de notre dessin d'une pièce, par exemple d'un fauteuil ou d'une table basse, ben, on va chercher le meilleur fabricant. On travaille, je veux dire, 80% en Italie, surtout pour les assises, dans la région du Frioul, où c'est la spécialité de cette région-là, où ils travaillent très très bien les assises. Et voilà, made in Italy, beaucoup, ben, on ne se refait pas. Après, moi j'aime le travail italien parce que c'est toujours de très bonnes factures. Les Italiens aiment vraiment la très bonne qualité. On travaille sur des pièces qui durent dans le temps, qui se transmettent. Voilà, les Italiens ne laissent jamais passer une pièce, partir une pièce qui soit pas parfaite. On travaille aussi beaucoup au Portugal. C'est très intéressant de travailler au Portugal parce que les Portugais sont des travailleurs et le mot impossible n'est pas dans leur langage, donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'ils cherchent toujours une solution sur notre design. On travaille aussi au Portugal pour le linge, en France pour le linge aussi, pour la lampe Gioia, elle est faite, l'abat-jour est fait en Italie, c'est un abat-jour plissé, enfin voilà. On essaie de travailler le plus possible en Europe pour que ce soit facile pour nous pour être là, pour se déplacer, vérifier que la qualité est bonne, que tout part dans les temps, chez notre logisticien dans le sud de la France, sud de Paris.
J'en viens à ta boutique que tu as ouverte en juin dernier. C'est encore une nouvelle aventure. Pourquoi une envie de boutique physique alors que tu étais sur le web depuis le début ?
Bah parce que c'est important de rencontrer notre communauté aussi. Ça, c'était primordial. C'est intéressant aussi de recevoir les architectes. On a pas mal d'architectes qui nous commandent. Donc, c'était bien aussi de se dire, bon, bah, on est à Paris. Si on peut les recevoir, c'est génial. Si on peut leur montrer nos tissus. Donc, c'est au départ, on s'est dit, on va ouvrir peut-être un showroom pour plus toute cette clientèle d'architectes et évidemment les particuliers. Et en fait, on a ouvert totalement une vraie boutique du mardi au samedi où on reçoit tout le monde et nous surtout on a nos bureaux derrière, donc on est là, on sent que ça grouille, c'est hyper intéressant de puis toute la communauté aussi, enfin les gens, les Parisiens, c'est bien aussi qu'ils puissent pouvoir venir retirer leurs pièces, donc on a aussi le click and collect mis en place du coup du web au physique. Et puis voilà, vraiment de rencontrer. C'est vrai qu'en déco, les gens veulent voir aussi l'échelle d'une pièce, toucher un velours, toucher une pièce et après commander de chez eux tranquillement. Donc voilà, c'était important de pouvoir aussi avoir un lieu physique.
Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter le magazine, la partie média ?
Ah non, jamais de la vie. Surtout pas. Le média va rester totalement. Je l'aime trop, c'est mon bébé. Le site est né comme ça, la marque est née comme ça. Non, elle sera toujours visible. Après, c'est vrai que la marque aujourd'hui prend beaucoup de place aussi en temps, mais on arrive très bien à garder tout ça parce que les gens nous connaissent aussi avant tout sur le média. Maintenant, il y a des gens d'ailleurs qui arrivent et qui connaissent que le shop, la partie shop, donc c'est hyper intéressant, mais on gardera toujours le média.
On n'a pas trop parlé de ton enfance, mais d'où te vient cette passion pour la déco et ce bon goût? Tu disais, c'était ta maman?
C'est un peu des deux, parce que mon père milanais, tous mes copains, quand j'allais chez eux, j'étais fascinée par leur appartement, ça me rendait dingue. Quand j'étais petite aussi...
Tu as grandi à Milan?
Non, j'ai pas grandi à Milan. En fait, on était partagés entre Paris et Milan, parce que mes parents étaient séparés. Et du coup, Paris, Trocadéro, 16e arrondissement, les appartements sont quand même assez dingues, assez sublimes. Nous, on vivait dans une petite maison, une micro-maison près du Troca, toute petite, et une mère aussi collectionneuse, qui a vraiment une façon de faire comme un antiquaire. Donc on ne pouvait pas passer chez nous. C'était très beau, mais très chargé de pièces trouvées aussi dans la rue, beaucoup, les puces tout le temps. Mais nous, ça nous barbait quand on était petits, mes frères et moi, de la suivre. Mais moi, j'étais la petite, donc elle m'emmenait. Et moi, j'étais pas très contente. J'avais froid dans les allées des puces. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir manger mes frites. Après, c'était un peu ma carotte, tu vois. Et mon frère et ma sœur aînée, Laetitia et Paolo, eux, pouvaient rester à la maison parce qu'ils étaient plus grands. Moi, elle m'a traînée un peu comme ça tout le temps. Et on vivait dans ce décor où elle recevait beaucoup. Ma mère avait des grands dîners... où elle mettait les petits plats dans les grands. Mais nous, on a toujours vécu. C'est même pas qu'elle mettait les petits plats dans les grands, c'était qu'on avait toujours, on était toujours habitués à être dans un décor théâtral. On a vécu là-dedans. Quand on est petit, on fait pas la différence. On le voit un peu quand on va à droite et à gauche chez des copains qui avaient aussi des appartements beaucoup plus grands, énormes, avec des enfilades, des enfilades de pièces assez dingues. C'était assez fascinant dans le 16e, vraiment des appartements assez fous. Et donc c'est cet univers-là, plus d'une mère un peu folle, dingue, artiste totalement, qui a fait les arts déco quand elle était jeune et qui passait son temps à nous demander de l'aider à ramasser des trucs dans la rue. Donc nous, on avait honte quand on était petit, parce qu'on avait peur de croiser nos copains de classe qui devaient se dire « mais pour les poubelles, c'est pas possible ». Donc on avait trop la honte, on n'était pas contents, alors qu'en fait, c'est ça qui est génial. Il faut être curieux. Elle nous a vraiment élevés à nous dire toujours cette curiosité, à lever le nez, même dans la rue, pour voir les plafonds, les soubassements des appartements, quand ils sont éclairés le soir, pour voir un peu les intérieurs. J'étais élevée comme ça, mais regarde, lève le nez. Et après, à côté de ça, on n'a pas du tout le même style aujourd'hui. Enfin, moi, je n'ai pas du tout le style qu'elle a. Et donc, j'ai aussi ma personnalité propre. Mais c'est vrai que c'est pousser les enfants à être curieux, en fait. Ce que je fais aussi avec les miens. Être beaucoup dans les expos et pas aller dans des expos pour enfants. Aller dans des expos de grands, mais montrer aux enfants les couleurs, les formes. Elle a été... C'est une artiste. Et je viens d'une famille d'artistes aussi, de peintres. Et donc, en fait, on a toujours été élevés à aller au musée, en fait, à être toujours curieux d'aller voir tous les musées tout le temps. Dès qu'on est quelque part, on cherche à aller voir le plus d'expos possible. Alors, sa barbe, toujours, moi, mon mari ou les enfants, il faut que je les traîne. Mais après, ils sont quand même contents. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se forgent aussi leur personnalité. C'est essayer de faire en sorte que, après, son imaginaire travaille derrière, après une expo. C'est une curiosité.
Et qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, au quotidien?
C'est tout le temps, partout. Enfin, moi, je suis à l'affût, je suis très curieuse, je continue. Donc, ça peut être des magazines, des bouquins, une rencontre chez quelqu'un qui m'emmène à une autre, un antiquaire qui va me raconter, je sais pas, quelque chose. Dans la rue aussi, beaucoup. S'arrêter dans une boutique, une vieille boutique, des passages parisiens. Moi, c'est mon quartier. Donc, il y a tous les passages des panoramas ou autres. Tu t'arrêtes chez un libraire, il va te raconter tout à coup une anecdote sur même un bouquin qui n'a rien à voir avec la déco, mais ça peut être la personnalité de l'auteur qui va te fasciner. Enfin, c'est tout le temps, quoi. Paris, quand même, on a vraiment de la chance d'être dans une ville avec un dynamisme fou. Même dans un restaurant, aujourd'hui, on a tellement de restaurants qui naissent avec des cartes sublimes, délicieuses, trois bouts de ficelle dans la déco. Et en fait, c'est sublime parce que c'est très, très, très simple. Et on n'a pas besoin d'être sophistiqué, d'avoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose de très beau avec beaucoup d'âme, quoi.
Et l'Italie aussi, tu en parlais, j'imagine que ça t'inspire. Est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que tu saurais me dire pourquoi les Italiens ont toujours une longueur d'avance?
Est-ce qu'ils ont une longueur d'avance?
Je pense
qu'ils en avaient une.
Ils
en
trouvent plus?
Si, quand même. Si. Bah, déjà, il y a Lady Morey qui, clairement, sont les stars, hein, qui sont les stars depuis un moment et qui continuent de l'être parce qu'ils ont ce culot pour mélanger les pièces, les époques avec un charme. Enfin, c'est plus qu'un charme, c'est qu'ils sont rassés, les deux. Emiliano, il est fou, quoi. Et il arrive tellement à prendre des risques dans le choix de ses couleurs, du mobilier, qui mélange des ensemble à l'opposé et qui fait que c'est assez dingue. Il y a eux avec leur création de mobilier aussi. Donc clairement, les Italiens sont by far les plus avant-gardistes. Bah, eux, en fait, c'est toujours la qualité prime. Donc ils vont toujours trouver à la fois, ils vont toujours réussir à créer un meuble beau et fonctionnel. Et c'est ça c'est ça qui est assez fascinant. Ils sont très très forts. Ça, c'est un peu l'esprit italien aussi, d'être toujours libre. Je pense aussi, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un culot assez fort qui me plaît, parce que j'adore ça. Et tout en étant très nonchalant.
Petite parenthèse Instagram. Avec The Socialite Family, vous avez créé une véritable communauté. Et notamment, donc, sur Instagram, vous avez 170 000 followers. Quel est ton rapport, toi, à Instagram? Est-ce que ça peut être une source d'inspiration?
Oui, totalement. Évidemment, c'est sans fin, Instagram. C'est chronophage. C'est assez fou. Je pourrais passer des heures et des heures dessus à regarder. Une image t'amène à une autre, et une autre, une autre, une autre. C'est assez dingue. Je trouve que c'est très, très fort. Ouais, j'aime beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur Instagram. Ça donne plein d'idées. Il y a toujours des comptes assez intéressants, des comptes qui présentent aussi des pièces vintage. Donc, en fait, d'ailleurs, chiner aussi sur Instagram, c'est hyper intéressant. Il y a plein de marchands maintenant du monde entier qui mettent leurs pièces. Donc, c'est assez. C'est pareil, une source pour s'instruire, qui est super.
Alors, j'en reviens à ta petite organisation. Tu as commencé seule, mais j'imagine que tu as une équipe désormais. Tu parlais de Marianne Gosset tout à l'heure. Vous êtes combien dans l'équipe?
On est 15 aujourd'hui.
Ah oui.
On est 15, ouais. Une vraie petite start-up très dynamique, avec pas mal de filles, pas mal de nanas, quelques garçons.
Et quel type de métier se cache derrière cette équipe?
Bah, en fait, c'est tout un truc, parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens dédiés au shop, donc, et toute la chaîne de fabrication, qui est évidemment très, très importante, de la fabrication, du suivi de fab, de la création d'abord, surtout, voilà, de la créa jusqu'à la sortie finale et à la livraison d'une pièce. Donc il faut suivre tout ce cheminement.
Et avec Marianne, donc, comment vous êtes organisé? Comment votre duo est organisé?
Marianne, c'est vraiment toute la partie business et développement, toute la partie finance, toute l'étude du site, de la marque. Enfin, on travaille vraiment main dans la main toutes les deux. On est très proches, on s'entend très très bien, on sait beaucoup. Et donc, on se concerte tout le temps. C'est vraiment partie un côté finance et de l'autre créa.
Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier?
Ce qui me plaît le plus, c'est quand on reçoit notre proto. Non, pas le plus, mais ça, c'est assez excitant quand le proto arrive au bureau et que là, on est toutes autour du carton, prêtes à l'ouvrir et à découvrir cette pièce qui enfin est arrivée après moult aller-retour et travail et correction, etc. Et quand la pièce arrive et qu'elle est prête et qu'elle est belle et qu'elle est prête à être produite, c'est très grisant, c'est très, très grisant.
Et le moins?
La patience, il faut être très patient, il faut apprendre à être patient. Et comme moi, je suis
deux fois que tu nous en parles.
Surex, je suis assez surexcitée tout le temps.
Il y a un sujet là-dessus, oui.
Ouais, il faut que je sorte, que j'aille faire du sport pour me calmer, parce que c'est souvent assez long, c'est très long. Et c'est ça aussi qui est assez fou, parce que nous, c'est vraiment de la création en propre, etc. Donc il faut absolument garder son calme, être patient, avoir cette sagesse-là pour attendre sa pièce.
Tu parles de sport, tu fais quoi pour te détendre?
Je fais plein de choses, je marche beaucoup, j'essaie de faire du pilates quand je peux, je vais en salle, j'essaie de faire d'aller pas très loin, du vélo dès que je peux, de la trottinette, essayer d'aller courir si je suis en Normandie, en week-end chez des copains, je prends toujours mes baskets pour aller courir, dès que je peux, je fais du sport pour me vider la tête, transpirer, ça fait un bien fou, voilà, ça c'est vital, il faut. Mais déjà, marcher pour aller d'un rendez-vous à l'autre dans Paris, c'est déjà bien.
Alors toi qui montes beaucoup chez les autres, c'est comment chez toi?
Eh ben, chez moi, c'est un mélange, c'est un compromis avec mon mari et moi, mais c'est toujours comme ça, un appartement aussi, c'est ça qui est intéressant, du coup, le mélange des styles. Bon, j'ai quand même pas mal imposé, parce qu'il faut, comme je suis dedans, et que je commence un peu à collectionner, tu vois, les vieux luminaires, etc., les pièces, forcément, on ne se refait pas, enfin, quand on recherche toujours, on accumule pas mal, et lui déteste l'accumulation. Et donc je fais un peu gaffe, j'essaie de faire tourner les pièces. Mais alors du coup, c'est un mélange, beaucoup, beaucoup de pièces vintage, beaucoup d'années 70, pas mal, qui vont se mélanger avec un tapis chinois ou un tapis perse coloré, des pièces qui ne sont pas signées forcément, d'ailleurs très peu sont signées. C'est beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup de pièces vintage.
Et tu n'achètes pas de contemporain?
Pas vraiment en fait, pas plus que ça. En fait si, là, j'achète plutôt de l'art. Des peintures, des toiles que je trouve de jeunes artistes, donc c'est pas, enfin c'est actuel, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie beaucoup de peintures et d'art là, j'ai envie de ça.
Est-ce que tu as un endroit chez toi que tu préfères?
Mon lit.
Tu es fatiguée alors que c'est la rentrée?
Non, je suis pas fatiguée, mais j'adore. J'ai toujours bouquiné ou travaillé quand j'étais étudiante dans mon lit. Enfin, mon lit, c'est tout ce que j'aime. Parce que j'aime les draps lourds, j'aime les draps anciens. C'est une fraîcheur. C'est enfin, je me repose, je me mets là. Il y a les enfants qui viennent. C'est vraiment le radeau de la Méduse, quoi. J'adore.
Quel est ton dernier achat déco?
C'est un tapis perse rose, mais un rose plus que framboise, un rose hyper fort et hyper intense, dense, on va dire. Très simple, donc vraiment une seule couleur. Ça, c'est le dernier achat déco que j'ai fait.
Et celui dont tu rêves?
J'aimerais bien un luminaire de Gino Sarfati, mais d'époque, évidemment que d'époque. Style nouveau aussi, j'adore ces lumières. Je suis très luminaire, moi. J'adore ça. Il y en a plein, il y a de Dino Gavina aussi, un canapé de Takahama de Paradiso Terrestre, mais bon, c'est très très pointu, je vais peut-être pas aller aussi loin. Il y en a plein, je rêve de plein de choses.
Est-ce qu'il y a un designer que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu nous cites des noms là? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Ou un courant?
En fait, là, je trouve quand même pas mal les années 70, mais j'aime bien les années 70 mélangées à de l'art déco par exemple, tu vois. Il n'y a pas vraiment un seul courant, seul et unique. Enfin, je ne suis pas monomaniaque sur un courant. Dans chaque époque, il y a des trucs, il y a vraiment des matériaux hyper intéressants ou des lignes qui sont assez folles.
Donc,
Liberty aussi, le courant Liberty est hyper beau.
J'allais te demander où tu fais ton shopping déco, tes bonnes adresses, mais en fait, tu chines quasiment exclusivement.
Oui, c'est que de la Chine. J'achète rien de neuf, assez rarement. Et puis maintenant, j'achète chez moi. Social Aid Family, avant tout, parce que j'aime surtout les pièces qu'on fait. J'adore ma lampe Joya, je dis ma, parce que j'ai mis du temps à la pondre, surtout avec l'abat-jour, etc., à plisser, je l'aime d'amour. La table basse Carlotta, j'en suis dingue. Du coup, le banc, je l'ai. Enfin, les pièces de la collection, c'est mes pièces, en fait. C'est les pièces que j'ai envie d'avoir chez moi. C'est surtout ça.
Dans un monde parallèle, si tu pouvais faire un dîner avec les invités de tes rêves, à quoi ressemblerait ta table et qui seraient tes invités?
Moi, ce serait un mélange d'artistes, comme un Matthias Kiss que j'aime beaucoup, par exemple. Voilà, j'adore son travail. Tu me demandais tout à l'heure, j'adore. Théodore Fivel aussi, un autre artiste. J'aime m'entourer d'artistes. D'antiquaires, ce serait un mélange d'artistes, d'antiquaires, de bons vivants. En fait, moi, je suis très. J'aime les dîners un peu à l'ancienne, justement, les dîners un peu qu'il y avait au 18e, où on recevait, ça durait des heures avec que des mélanges des genres. Et ça, j'adore ça.
Il faudrait que tu nous mettes un chanteur, là.
Et un chanteur, évidemment.
Et lequel?
Quel chanteur? Lucio Battisti avec nous, qui n'est plus de ce monde. Un chanteur italien qui pourrait venir. Ou alors non, un duo, voilà, Peter Polo et Pan. Un duo de jeunes DJ électro mélangés avec des artistes, des écrivains bien sûr, un Thibaut de Montaigu par exemple, qui est un copain. Voilà.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill, qui sont des petites questions pas chères payées. On va faire une question à Wattmill spéciale rentrée. Donc, question à 10 euros, le prix de 100 cartes Pokémon qu'on s'échange et qu'on se dispute. Est-ce que quand tu étais jeune, on t'a souvent appelé Hortense au lieu de Constance?
Mais carrément, j'ai failli t'appeler Constance d'ailleurs, Hortense. On m'appelait Hortense.
Ouais. Parce que moi, on m'appelait Constance, donc j'avais envie d'en parler avec toi. Question à 19 euros, le prix d'un sac à dos pour enfants. Je crois que tu aimes beaucoup la mode aussi. Donc, tu es plutôt sac à dos, besace, pochette ou banane, comme on peut voir sur les filles les plus branchées, justement.
J'adore les bananes, en fait, c'est clair, j'adore ça. Je suis fan de la banane parce que moi, j'ai envie d'avoir les mains libres, déjà pour tenir mes enfants des deux côtés. Après, mon vélo ou ma trottinette. Donc, je pense que c'est vraiment la femme libre, la femme du moment. C'est avoir le moins de choses possible, parce que finalement, sur un téléphone, on a tout, on a son ordinateur, ses clés et roule ma poule.
Et question à 2,50€, le prix d'un cahier. Est-ce que tu peux nous dire en italien, très bonne rentrée à tous.
Buon rientro a tutti. Ciao, ciao.
Merci beaucoup, Constance.
Salut, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.